c'est pas à moi, c'est à toi, je crois. Ouais. Ouais. Bon, alors, je vais vous faire un résumé de ce que je voulais vous dire. Hein, alors, il me faudrait bien un plan, tiens. Oh, non, pas la peine. Et des photos, oui. J'avais à cœur de vous parler de... Alors, comment, pour résumer ça, je pense... voilà. Et Emmanuel, le violoniste, a, dans sa prière, dit quelque chose qui allait dans le sens de mon message, qui est que Emmanuel disait « Dans ma vie, dans notre vie, Dieu utilise ce que l'on vit pour notre édification. » Je ne sais pas ce qu'il a dit, si là-dedans il n'y avait pas l'idée, je pense que si, c'est que de temps en temps, ben, il y a des choses qui sont négatives dans nos vies, des souffrances terribles que l'on ne voudrait pas avoir et que Dieu permet que nous puissions avoir. Il le permet, c'est pas qu'il est le provocateur de la souffrance, mais il utilise les souffrances qui ne viennent pas de lui pour nous édifier. Je pense que c'est un peu ça que Emmanuel voulait dire. Et puis Jill, dans le cantique qu'elle avait proposé, il y a un moment donné, il était parlé du fondeur. Hein. Vous connaissez l'histoire du fondeur. Et ça nous évoque tout de suite ce qui se passe, ce qui nous est dit dans l'épître de Pierre, hein, la première épître de Pierre, au chapitre 1, je crois, si ma mémoire est bonne. Attendez que je trouve. Dans la première épître de Pierre, c'est ça, il nous est dit que nous avons plein d'épreuves. Et au verset 6 du chapitre 1, il est dit, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant... puisqu'il le faut, vous êtes attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Et épreuve, c'est pas forcément devoir rater le bus le dimanche matin pour aller au culte ou pour aller au boulot. C'est parfois se retrouver devant le mur de la mort. J'ai un ami qui vient de décéder, c'était un chrétien. Quand j'ai su qu'il était à Oscar Lambray, en réanimation, enfin pas en animation, en soins palliatifs. J'ai couru tout de suite pour aller le voir, bien sûr. Puis donc, on a pu parler pendant quelques jours ensemble, et puis il est mort vendredi. Voilà. Et il était devant un mur, hein. Il était devant une épreuve. Et celle-là, c'est l'épreuve-là. Hein. S'il n'y a pas une épreuve telle que celle-là, excusez-moi, mais bon. On est toujours confronté à diverses épreuves. Il nous est dit... Pourquoi ? Il nous a dit, afin que l'épreuve de votre foi, le test de votre foi, plus précieuse que l'or prépérissable, qui lui-même, et il nous est-il dit, est éprouvé par le feu. Et c'est le feu du fondeur. Et donc, on fait facilement hein, le rapprochement avec notre propre vie. Dans votre vie, vous avez des souffrances, des trucs indicibles, des trucs que vous n'arrivez même pas à dire aux autres, même pas à votre conjoint si vous en avez. Hein, parce que vous souffrez. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans mon message, je voulais parler de la Bible. Alors, je vais vous dire un peu. La Bible, un jour, je me suis retrouvé avec un présentateur, un gars qui est chrétien, mais bon, enfin, il doit être chrétien, je pense. Hein. Et puis, il fait des colloques sur la science, sur des choses qui sont problématiques aujourd'hui à la Cité des Sciences, à la Villette, vous savez, à Paris. Hein. Et puis donc, il dit, oh, écoutez, vous savez, ce qui est important, c'est la Bible pour tout ce qui est de l'âme et du spirituel, et la science pour tout ce qui est de la matière. Hein. Et il y a un mur entre les deux, c'est-à-dire vous avec votre Bible, nous avec notre Bible, parce qu'il se considère comme chrétien, nous avec notre Bible, on s'occupe de tout ce qui est spirituel. Tout ça, c'est spirituel. Et puis la matière et tout ce qui est réel, c'est la science. Avec cette volonté de créer un mur entre les deux. Alors, c'était un peu le but de ma méditation de ce matin, de dire, mais non, la Bible, c'est pas ça. La Bible, elle est psychologique, c'est à la mode aujourd'hui. Elle est politique, elle est littérale, elle est symbolique, elle est prophétique, elle est scientifique. Elle est philosophique, elle est archéologique, elle est mystique, parfois elle est même kabbalistique. Quelquefois elle est spirituelle, quelquefois elle est poétique, et puis vous pouvez encore en trouver d'autres. Elle a des qualités, et certains disent qu'elle n'est que poétique. C'est juste un livre de poèmes. Ou d'autres disent qu'elle n'est que prophétique. C'est qu'elle donne des prophéties, et c'est pour le futur, etc. Ou elle donne des messages qui viennent de Dieu, mais elle n'est que prophétique. Elle n'a pas d'autres aspects. Ah bon ? D'autres disent, si, elle est scientifique. Puis d'autres, elles disent, elle est kabbalistique. Oui, il y a Alep qui est mis au milieu du mot Abraham, ça fait Abraham, et donc forcément Abraham a Dieu en lui maintenant, parce que Dieu l'a changé dans son nom et en même temps dans sa vie. C'est un peu de la kabbale, hein, mais c'est quand même aussi un peu vrai. Donc peut-être qu'il y a de la kabbalistique aussi, positivement, dans la Bible. La Bible, on la prend entièrement, et on ne prend pas simplement un morceau en disant il y a un mur entre la réalité et le spirituel. Comme si on voulait dire la science a un domaine et puis le spirituel en a un autre. Et on voit qu'en psychologie aujourd'hui, quelquefois, il y a des passerelles, il y a des choses qui ne sont plus du tout de la matière, ou beaucoup moins, et qui touchent à l'âme, etc. Voilà. Alors, au travers de ça, je me suis dit, mais pour essayer de parler à cet homme de sa façon de scinder la Bible en deux morceaux, science d'un côté, hors de la Bible, et puis le spirituel dans la Bible. Et puis j'en suis venu à me dire, tiens, il y a bien un passage qui nous montre que, il y a plusieurs, hein, mais moi celui que j'ai choisi, c'est un passage qui nous montre que la Bible parle d'archéologie, de science, de psychologie, de spirituel, de poétique, d'archéologique. Et là, dans cet événement dont il nous est parlé dans la Bible, cet événement-là, il est bien, enfin, il concentre bien tous ces aspects de la Bible. Et c'est quoi cet événement que j'ai pris ? C'est le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge. Et je fais le lien avec ce que je vous ai dit au sujet de ce que disaient Emmanuel et Gilles dans leur contribution pour ce culte de ce matin. C'est que l'épreuve de votre foi, l'épreuve de notre foi, elle nous permet de penser qu'un jour nous serons dans la gloire avec Dieu. C'est ce qui est marqué dans la première épître de Pierre. Et donc, par rapport à ça, il y a un lien également avec le passage de la mer Rouge. Alors, je ne vais pas le prendre, c'est dommage, j'aurais bien voulu, mais je voudrais simplement vous dire que dans Exode, au chapitre, c'est au chapitre 13, enfin 13 à 15, nous avons une description de ce passage de la mer Rouge. Et je voudrais simplement pointer certains événements qui sont marqués cet événement-là. C'est que le passage de la mer Rouge s'est fait la nuit. Alors, imaginez la carte du Sinaï. Vous avez d'un côté la mer Rouge, dont il y a un bras sur la gauche, entre le canal de Suez, si vous voulez, hein. Et puis vous avez le golfe d'Aqaba, dont il nous a été parlé tout à l'heure. Et il nous est dit que Dieu a fait attention à ce que le peuple ne soit pas perturbé psychologiquement par les agressions qu'il pourrait subir par les Philistins en sortant d'Égypte. En sortant d'Égypte, il va se retrouver à prendre soit le chemin de la mer, le chemin le plus court, l'autoroute si vous voulez, qui est entre le delta du Nil et puis la bande de Gaza aujourd'hui. Et Dieu dit non, c'est pas par là que je vais l'emmener, je vais prendre le chemin du désert. Ce fameux chemin du désert sur lequel Dieu dit à Philippe, va sur le chemin du désert, pas celui de la côte, mais celui du désert, et puis il y va. Et c'est là qu'il rencontre l'eunuque éthiopien et qu'ils ont un discours sur Ésaïe 53, hein, vous voyez. Et donc, c'est ce deuxième chemin parallèle au premier qui se trouve dans les terres et qui est beaucoup plus zigzagant et beaucoup plus fatigant. C'est un peu bizarre, Dieu, au lieu de prendre l'autoroute, prend les voies un peu zigzagantes de la montagne. Et pire encore, à un moment donné, Dieu, donc vous voyez, il passe de la gauche vers la droite pour aller vers le pays de Canaan, et à un moment donné, sur cette route qui est déjà sinueuse, il y a une grande vallée sur la droite, au premier feu, à droite, vous tournez, et au lieu de continuer à aller parallèlement à la côte vers Canaan, il rentre carrément dans le triangle du Sinaï. Et tout ce peuple rentre dans le Sinaï. Et il nous est dit que là, à un moment donné, il s'installe entre Migdol et Pi-Hahiroth. Migdol, ça veut dire en hébreu la tour de guet. Et Pi-Hahiroth, c'est un endroit qui a été reconnu. Il est sur la mer Rouge, mais pas du côté gauche, du côté droit. Et là, ce peuple se trouve coincé entre la mer et les Égyptiens qui viennent. Parce que les Égyptiens, avec la tour de guet, hein, avec les feux qu'on faisait la nuit ou avec les glaces que l'on bougeait la journée, le royaume d'Égypte était tout au courant de ce qui se passait dans ces contrées particulièrement dangereuses. Et donc, l'Égyptien, le pharaon, s'aperçoit que ils sont complètement fous, ces Hébreux, au lieu de suivre la route qui va vers Canaan, parallèle à la route de la mer, à un moment donné, ils ont pris à droite et ils se sont mis dans une nasse. Et ils arrivent vers le soir, les Égyptiens, et c'est l'affolement général au niveau des Juifs. Ils s'aperçoivent qu'ils sont morts. C'est même pas la peine de réfléchir, ils sont morts. Quand vous êtes devant une épreuve dans votre vie, vous êtes, comme moi je le suis, mort. Ça y est, c'est fini, c'est la fin. Et psychologiquement, vous êtes désemparés, vous n'avez plus quoi faire. Hein. Et eux, c'est ce qui se passe. Et on voit que Dieu leur dit, écoutez, arrêtez de crier, arrêtez de vous affoler et marchez. Vous voyez dans Exode au chapitre 15. Dans les versets du début, vers le verset 17 par là. Pourquoi ces cris, dit Dieu? Il dit que le peuple marche, pas de cris, et avance. Et ça, c'est pour moi, c'est pour toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es devant un mur, et tu te dis, c'est la fin, c'est vraiment la fin. Mon cerveau me dit, et c'est logique, je le sais, c'est la fin. Il n'y a pas d'autre solution. Et le cerveau voit beaucoup plus vite que notre raisonnement, il s'affole, il est dans l'émotivité, et il essaie de trouver des solutions complètement farfelues pour essayer de s'en sortir. Et il ne peut pas. Et on sait que Dieu dit à Moïse, tu tapes avec ton bâton sur la mer, et les eaux vont souffrir. Or, si vous étudiez bien l'affaire, vous apercevez que ça ne s'est pas ouvert d'un seul coup. Ça a mis du temps. Pendant le début de la nuit, Dieu fit souffler, hein, il nous est-il dit, un grand vent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que le psaume 147 nous le dit. Le psaume 147, versets 16 à 20. Si vous le lisez, vous verrez que le psaume 147, je ne vais pas en parler trop, mais le psaume 147, si vous le lisez, j'aimerais bien que vous le lisiez, vous verrez qu'il y a quelque chose de bizarre. À un moment donné, il est dit que Dieu envoie son froid, il envoie sa glace, il envoie la neige. Et juste après cette phrase, le psaume parle à mon avis, du mont Horeb. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de chronologie qui apparaît dans le psaume 147, mais c'est à discuter, hein. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, et vous avez tout à fait le droit. C'est que dans ce psaume 147, on voit que Dieu lance sa glace par morceaux, et puis qu'ensuite, il donne sa parole à Jacob. Et c'est assez significatif, ce lien, pour vous dire que ce qui s'est passé pour le passage de la mer Rouge, c'est pas ce qu'on a vu dans les films que nous avons tous connus et qu'on a tous vus, je parie, hein, en tant que chrétien, hein, Cécile B2000, par exemple. Vous voyez, il y a la tempête et puis il y a Moïse qui tape la mer et ouf, tout d'un coup, hop, la mer s'ouvre et on voit, à l'époque, c'était même difficile, hein, de faire un trucage au cinéma pour montrer des vagues qui sont en train d'être haut au lieu d'être horizontales, d'être verticales. C'est pas ouf. Comme ça, et puis le peuple qui passe au milieu, affolé, et puis on se dit, les Égyptiens, ils passent derrière. Alors moi, je me souviens que je l'ai vu quand j'étais petit, j'ai dit, mais ils sont fous, ces Égyptiens. Moi, j'aurais été à leur place, je ne serais pas passé. Hein. C'est sûr, hein. Avec un truc qui est en train de... Comme ça, non. Et ben, en fait, il nous est dit, à mon sens, que Dieu envoya sa glace par morceaux, il souffla toute la nuit un grand souffle sur la mer, et En fait, il nous est bien dit, même dans le chapitre, le chapitre 15 de oui, le chapitre 15 d'Exode, on va le prendre quand même, hein. Écoutez, on veut quand même être des gens sérieux, on va prendre sa Bible, et de voir que dans Exode 15, il nous est dit, au verset 8 du chapitre 15 d'Exode, c'est le cantique de Moïse, hein, quand ils ont été sauvés, juste après, hein, quand ils ont vu les Égyptiens sur le bord de la mer. Il nous a dit au verset 8, « Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. » Alors nous, on voit Cécile B2000 avec son trucage. Ou on voit par exemple le film, vous savez, non, c'est pas un film, c'est un dessin animé, Le Prince d'Égypte. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il est beau aussi. À un moment donné, on voit même une grosse baleine qui arrive, qui regarde les enfants d'Israël en train de passer en bas sur la terre. Et puis, on voit cette baleine qui regarde ça, puis qui s'en va. Vous voyez, c'est mignon, c'est joli, c'est pas mal. Mais à mon avis, c'est faux. À mon avis, oui, à mon avis, c'est faux. Je suis peut-être hérétique, hein, mais excusez-moi, je vous demande pardon. Mais à mon avis, la baleine n'a pas pu le voir, parce que les baleines dans le coin, bon. Et puis, en plus, c'était une muraille. Dieu a envoyé sa glace par morceaux. Il y a eu l'explosion du Santorin. Probablement, les scientifiques aujourd'hui se disent il y a quand même un lien entre tout ce qui s'est passé en Égypte et les événements qu'on connaît. Il y a eu, au nord de la Crète, une violente explosion en moins 600 avant Jésus-Christ. Et il y a eu après, disent-ils, certains scientifiques disent, une perturbation météorologique telle qu'il y a des effets particuliers qui se sont passés, et certains font le couplage entre cet événement qui est authentique du point de vue de la science avec les événements qui se sont passés en Égypte. Bon, après, je me souviens, j'en parlais avec un de mes collègues du temps où je travaillais, et je dis oui, d'accord, ça marche ton truc, mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a eu les 10 plaies d'Égypte qui peuvent, les 9 plaies d'Égypte peuvent correspondre, mais je te dis pas, au niveau de la mort des premiers-nés des Égyptiens, je vois pas comment tu peux faire le lien entre ces événements météo et puis la mort des premiers-nés. Il y a donc quand même une intervention de Dieu. Bon, enfin bref, toujours est-il qu'on en revient à ce qui s'est passé, c'est que durant toute la nuit, le peuple a vu la mer devenir figée dans une la mer s'est écartée, et puis il y a eu un figage de la mer. Donc, pour moi, il me semble, la seule façon de figer une mer, c'est qu'il y ait au moins moins 5 degrés Celsius, et qu'il y ait des murailles d'un côté qui soient en glace. Verset 8, au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira, tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel ? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges ? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as délivré ce peuple, par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Et puis, plus loin, il nous est dit, au verset 17 de ce même chapitre, tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Dans ce cantique, on nous parle de réalité physique, scientifique. Cette réalité que, pendant la nuit, pas pendant le jour, avec un cagnard comme il y a en Israël, vous avez vu ? Non, pendant la nuit, il y a une tornade, je ne sais pas, un truc, Dieu envoie sa glace par morceaux, deux murailles de glace, de part et d'autre, et puis les Israélites, ils n'étaient pas encore israéliens à l'époque. Les Israélites passent de Pi Hahiroth vers Baal Tsephon, qui se trouve en Arabie. C'est-à-dire que, moi, mon opinion, c'est que ce qu'on en a d'habitude comme idée que le passage de la mer Rouge, c'est dans la branche du canal de Suez, est fausse. que la branche véritable, c'est celle du golfe d'Aqaba. Alors là, ici, je vous livre mes certitudes, entre guillemets. C'est que Ron Wyatt, un monsieur qui est mort en 1999, a fait beaucoup de recherches archéologiques et parfois elles sont un peu bizarres. Je n'irai pas jusqu'à dire que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Il a trouvé l'arche de Noé, il a trouvé même l'arche de l'Alliance qui est cachée en dessous du Golgotha. Enfin, des trucs un peu bizarres. Mais il y a d'autres choses qui sont tout à fait rationnelles et qui correspondent bien mieux à la réalité des choses que la théorie qu'on a d'habitude entendue, que le passage de la mer Rouge, c'est du côté de la mer des roseaux, du côté de Suez, là, enfin de l'autre côté. Non. Et en plus de ça, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'à l'endroit où il passe, il y a un cône de déjection des torrents qui viennent du Sinaï et un cône de déjection qui vient de l'autre côté. Et qu'il y a un pont de terre qui se trouve camouflé en dessous de l'eau à cet endroit-là. Oui, bon. Et ce qui fait que, parce que dans le golfe d'Aqaba, les pentes sont à 45 degrés. Alors vous imaginez un peuple qui doit descendre 45 degrés et remonter, hein, c'est pas possible. Et juste à cet endroit-là, au niveau de Pi Hahiroth côté ouest et de Baal Tsephon du côté est, Arabie, il y a un pont de terre qui est à quelques centaines de mètres en dessous du niveau de la mer. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu, par un miracle, qui est physique quand même, il a mis du temps à congeler la mer, et ça a pris toute la nuit. Et au matin, les Hébreux étaient passés. Et au matin, on le voit, il nous est dit, dans le chapitre 14 de l'Exode, au matin, les Égyptiens sont passés. Là, je comprends mieux. Moi, en tant que petit garçon, quand je voyais ces vagues qui étaient de chaque côté des panneaux en verre de Cécile B2000, je n'imaginais pas qu'un Égyptien intelligent ose passer. Pas possible. Mais là, oui. Quand on admire d'un côté et de l'autre, et qu'on se dit, s'ils sont passés, nous, on peut passer, là, ça paraît plus logique et psychologiquement possible. Manque de chance, c'est le matin. Et il nous est dit que Dieu souffle à son haleine. Son haleine, c'est en général chaud. L'haleine. Et il a soufflé son haleine, le soleil s'y mettant, eh ben, on s'est trouvé comme du temps de la débâcle de la Volga quand c'est le printemps. Ça, c'est pas par là, hein, c'est du côté de la Russie. Vous savez que la Volga, quand c'est la débâcle, c'est vraiment la débâcle. Hein, ça, c'est le nom qui est passé dans le sens commun, la débâcle. Les pièces de glace qui semblent costauds au contact de la chaleur se déchaussent et ça va très vite. Ça va très vite. Et c'est ce qui s'est sûrement passé. Bon, je suis en train de vous dire que la Bible, c'est un livre scientifique. C'est un livre qui nous donne des réalités psychologiques. Le peuple qui est complètement affolé, c'est absolument vrai. On s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont absolument authentiques là-dedans. J'en viens plutôt maintenant à dire que ce n'est pas vraiment le sujet. La Bible, elle nous parle uniquement que de science et que d'archéologie. Parce que Pi Hahiroth et Baal Tsephon ont été retrouvés. Et du côté de l'Arabie, on a retrouvé des endroits, et Ron Wyatt prétend que le mont Agar, c'est ce dont il est parlé dans les épîtres de Paul, c'est le mont Sinna en Arabie. Vous vous souvenez quand l'apôtre Paul fait la différence, enfin c'est pas l'apôtre Paul, c'est dans les Hébreux je crois, donc on ne sait pas si... C'est Galate, je te remercie. Donc c'est l'apôtre Paul. Et donc il dit qu'il y a une différence entre la postérité selon la chair, c'est-à-dire Agar, et la postérité selon l'esprit, c'est-à-dire Israël, c'est-à-dire Jacob. Et que le mont Agar, c'est le mont Sinna en Arabie. Et Ron Wyatt en fait un lien, il dit, en fait, le mont Sinaï, ce n'est pas au monastère Sainte-Catherine dans le triangle, mais c'est en Arabie. Seulement, voilà, maintenant, les Séoudiens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on aille faire des recherches archéologiques là-bas, parce que c'est un terrain sacré. Enfin bon, ils ne veulent pas. Et on se trouve aujourd'hui à devoir attendre qu'on puisse aller faire des recherches là-bas. Hein. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que la Bible, elle n'est pas simplement que scientifique ou qu'archéologique ou que prophétique. Elle est tout en même temps. Et nous voyons dans ce passage de la mer Rouge un principe qui n'est pas simplement qui n'est pas simplement une réalité physique, c'est également un principe divin d'épreuve pour chacun d'entre nous. On se retrouve parfois, je me suis retrouvé parfois, devant la mer rouge, ma mer rouge à moi, si vous voulez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je m'affole. Et puis, quelquefois, il m'arrive de dire, mais enfin, Seigneur, tu m'as déjà libéré une fois. Tu m'as sauvé par grâce quand même. Tu veux que je meure? Ben, bon, allez, d'accord. Je veux bien mourir. Je vous assure, hein, je me suis dit ça. Hein, vous savez, j'ai eu le cancer, donc je me suis dit ça. Je veux bien mourir. Enfin, Seigneur, j'ai un petit garçon et une femme. Je ne sais pas si c'est ton objectif, mais si c'est ton objectif, fais-le, Seigneur. Mais au début, c'est pas comme ça. Au début, c'est l'affolement. Qu'est-ce qui se passe pour nous? C'est ce qui se passe quand on est confronté à des épreuves. Alors après, il y en a qui disent « Ouais, ton épreuve, c'est rien. Moi, je suis passé par quelque chose de beaucoup plus. Alors écoute, tu pourrais au moins te secouer un peu. » Mais ça, Dieu ne le fait pas. Dieu, il trouve que chacun, nous avons des épreuves et que ces épreuves, elles ne sont pas faites pour être éprouvées, mais elles sont faites pour que nous ayons un regard qui nous amène à nous dire « Dieu, de toute manière, il est encore là. » Vous remarquerez que dans l'Exode, dans ce qui nous est dit de l'Exode, Dieu ne leur reproche pas d'être affolés. Dieu ne nous reproche pas d'être affolés. Ce qu'il veut, c'est qu'à la deuxième réflexion, ou à la troisième, enfin, je ne sais pas le temps que ça prend, si vous avez un cerveau lent ou un cerveau rapide, les hommes ont un cerveau lent, les femmes plus rapides, paraît-il. Donc, les hommes ont peut-être plus de difficultés à se remettre en cause, je ne sais pas, hein, je demande votre avis. Hein. Eh bien, à un moment donné, je dis, mais non, quand même, Dieu m'a sauvé jusque-là, c'est quand même pas pour me faire mourir et m'anéantir. Et quand je me retrouve au seuil de la mort, comme mon ami Jean Van de Cotte, qui est mort maintenant, on se dit, même dans la mort, le Seigneur sera là, et il va me sortir de la mort, comme il a sorti Jésus de la mort. Et alors, j'ai pas le temps, le psaume 95, est un psaume très négatif. Le psaume 95 parle du comportement d'Israël, du peuple d'Israël. Et dans ce psaume 95, il nous est dit, avec tout ce que j'ai fait pour ce peuple, il n'a pas réussi à entrer dans mes voies. Le peuple n'a pas réussi à entrer dans mes voies. Alors si vous faites un axe de temps, si vous voulez, entre zéro, l'âge où vous êtes né, et puis la flèche qui va vers votre mort, c'est encore une flèche pour l'instant, hein, vous avez eu des jalons. Et quand vous regardez vos jalons, en général, les jalons qui vous ont été positifs, c'était les jalons de détresse et de mort apparente. Premier jalon pour le peuple d'Israël, c'est la Pâque, c'est les plaies d'Égypte. À la Pâque, qu'est-ce qui s'est passé? Un agneau devait être tué, sans défaut et sans tache. On prenait son sang, une branche d'hysope, de l'hysope, hein, pas un balai ou n'importe quoi, on prenait une branche d'hysope et pss, 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 on en mettait sur les linteaux de la porte. Et tous les gens qui étaient à l'intérieur de la maison étaient sauvés. Ils n'avaient pas à recevoir le châtiment de l'Égypte. Et on sait que les Égyptiens, affolés, les ont chassés avec de l'argent, ils les ont chassés hors de leur pays. Ils étaient libres. Jamais personne n'aurait pu réussir à sauver ces pauvres Hébreux esclaves en Égypte. Dieu s'est arrangé pour les sauver. C'était définitif. Ils étaient maintenant libres. Alors, je vous fais le parallèle avec la vie chrétienne. Quand on comprend que Jésus a été l'agneau sans défaut et sans tache qui a payé pour nous et qui était prévu dès avant la fondation du monde, eh bien, cet agneau qui a payé de sa vie. Après, je me dis, mais maintenant, c'est bien, Seigneur, je vais attendre la résurrection en me tournant les pouces. Mais ce n'est pas ça que Dieu avait prévu. Moi, quand j'étais petit chrétien, je suis toujours petit chrétien, mais je veux dire, quand j'étais jeune chrétien, j'imaginais pas que Dieu me ferait passer par ces épreuves-là qui m'ont fait passer. Et pour vous, c'est la même chose. Et après, on se dit, mais Mais enfin, Seigneur, tu m'as sauvé. C'était pourquoi? C'était pour me donner le bonheur ou c'était pour me donner le malheur? Parce que tu m'as donné le malheur, là, pour l'instant. Eh bien, au bout d'un certain temps, comme les Hébreux, on s'aperçoit que ces jalons où nous souffrons, avec les solutions que Dieu donne, nous amènent à la foi. Et dans ce psaume 95, Dieu est fâché. Et il dit, cette génération, cette race, les Hébreux, je l'eus en dégoût. Et je décidais, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous remarquerez ce qui est marqué dans ce psaume 95, c'est pas coton, c'est pas très gentil. On a l'impression que le peuple de Dieu, le peuple des Hébreux, n'est plus le peuple de Dieu. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Voyez ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu, il peut parfois être en colère contre moi. Il peut être en colère contre moi parce que il dit, écoute Étienne, t'as vu ? Je t'ai sauvé de ça. Je t'ai sauvé de ça, je t'ai sauvé de ça, ça, de tout ça. Et maintenant, qu'il y a encore une épreuve, t'as encore oublié. Et il dit, non, là je ne suis pas content. Là je ne suis pas content. Et c'est ce qu'il est dit ici dans ce psaume 95. Je ne suis pas content. Mais ça ne veut pas dire, j'en ai fini avec toi. Ça veut dire, non. Je ne suis pas content comme un père n'est pas content avec son fils qui, au détour de tous les événements qu'il a subis, entre guillemets, et que Dieu a permis, il n'a toujours pas compris que je suis capable d'ouvrir la mer rouge devant toi. Alors, vous comprenez, les chrétiens d'aujourd'hui ou les chrétiens d'hier ont une lourde... Ils peuvent être coupables. Enfin, nous, on ne peut pas être coupable pour nos parents ou pour les ancêtres que nous avons eus, chrétiens. Mais beaucoup de chrétiens, dans le temps, ont dit, nous, si on avait été à la place des Hébreux, on n'aurait pas fait comme eux. On aurait été beaucoup plus pieux, beaucoup plus obéissant. Et il y a, chez l'être humain, l'idée que l'autre n'y arrive pas, mais que moi, j'y arriverai. Et en fait, on s'aperçoit que, comme pour les Hébreux, nous sommes toujours confrontés à la même chose. Nous allons tomber sur un mur, nous allons tomber sur la mer rouge, si vous voulez, notre mer rouge, et là, Dieu va nous confronter avec nous-mêmes. Il va dire, est-ce que là, tu es prêt à me faire confiance ? Et je pense que nous, on a de la chance, hein, dans notre pays, de pouvoir oublier ça. Et en fait, c'est pas une chance pour nous, c'est peut-être parfois un lourd handicap, un boulet à traîner. Ceux qui sont dans des pays difficiles et qui sont confrontés à leur propre mer rouge, peut-être tous les jours, eux sont certainement plus proches de Dieu que nous, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils sont dans les circonstances qui le permettent. Alors, il nous est dit, je me glorifierai bien plus de mes détresses, de mes faiblesses, hein, c'est l'apôtre Paul qui parle que je me glorifierai plus des moments de détresse parce que ma grâce s'accomplit dans la faiblesse, dit Dieu à Paul qui lui a sa mer rouge permanente au niveau de sa maladie, hein. Et il dit je me glorifierai bien plus de mes faiblesses, de mes échecs, de mes épreuves parce que ça m'amène beaucoup plus vite près de Dieu dans la foi. À chaque fois qu'il y a un jalon dans notre vie, à chaque fois rebelote, on recommence, enfin, peut-être pas à chaque fois quand même, mais vous n'avez pas l'impression qu'à chaque fois, on se dit, ça y est, Seigneur, tu m'envoies encore une drôle de pelle, une drôle de situation, comment ça se fait? Est-ce que je ne serais pas plus heureux sans ces détresses? Eh bien non, Dieu sait comment nous sommes faits, de quel bois nous sommes faits. Et dans Jérémie, au chapitre 31, je crois, si je ne m'abuse et j'arrête là, il nous est dit, voilà, Jérémie 31, bon, je vais lire un petit peu le début du chapitre 31 de Jérémie. Vous savez que Jérémie, lui, il est en train de vivre la chute de l'État d'Israël de l'époque, en moins 580 et des broukilles, hein, dans ce coin-là, moins 580. Et que ce qui est dit ici est en train de s'accomplir sous nos yeux en plus de 1948, hein? Hein, donc quand même, ça fait quand même bien 25 siècles, quoi, si je ne m'abuse, hein, à peu près. En ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive, entre parenthèses, de l'Égypte. Israël marche vers son lieu de repos. Ah ouais? Ah bah je pensais qu'il était dans le repos. Ah bah non. Non, il n'est pas dans le repos. Vous avez vu? Ils n'entreront pas dans mon repos. Et puis, dans le chapitre 15 de l'Exode, il nous est dit que c'est au sanctuaire que tes mains ont fondé, ce fameux sanctuaire. Donc, quand ils sont sortis d'Israël, ils ont été, d'Égypte, pardon, ils ont été sauvés par la Pâque, comme les chrétiens sont sauvés par la Pâque. Ils ont été amenés par Dieu dans des situations impossibles dont ils ont été sauvés, comme nous étions dans des situations impossibles dont il nous a sauvés. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, Dieu nous donne des souffrances qui nous font toujours avancer dans la foi pour lui. Donc, le repos, c'est pas pour maintenant. C'est un drôle de repos. C'est vrai que c'est un repos. Le fait d'être certain d'être sauvé, c'est un repos. Mais ce repos, il a l'air un peu quand même assez fatigant de temps en temps, hein? Et ce repos, c'est pour nous amener au sanctuaire que tes mains ont fondé, c'est-à-dire le sanctuaire céleste. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est pour l'instant. Nous sommes tous en cheminement dans ce repos pour arriver au sanctuaire céleste. Et c'est ce qui est dit aussi dans Jérémie au chapitre 31. Israël, verset 2, marche vers son lieu de repos. Et il nous est dit dans Hébreux au chapitre 3, verset 18, je crois, que si Josué leur avait donné le repos, c'est-à-dire Josué qui a été celui qui les a introduits dans le repos, c'est-à-dire le pays d'Israël, bah, si c'était ça le repos, on ne parlerait pas d'un autre repos. Donc ce qui veut dire que dans les Hébreux, dans le livre des Hébreux, je veux dire, hein, dans le livre des Hébreux, l'auteur de cette épître dit bien que le repos n'y est pas encore. Pourtant, on est déjà dans le repos, mais on n'est pas dans le repos parfait, complet, parce que nous sommes en processus de grandissement dans notre foi. Et il nous est dit, Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Ah, ça fait plaisir pour les Hébreux de savoir que si la race qui a été dans le désert, il lutte en dégoût, ça veut dire que c'était temporaire, que c'était lié à sa désobéissance à ce peuple. Mais qu'il est dit ici, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. Je te rétablirai encore. Tu seras rétabli, vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Ouais, on a vu, hein. Les planteurs planteront et cueilleront des fruits. Ouais, on les a vus, là. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu, car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, du nord, de l'Europe, de la Russie, et puis aussi d'Éthiopie, etc. Et d'ailleurs, je les ramène du pays du septentrion. Et ça, c'est juste au moment où c'est la chute de l'État d'Israël de l'époque. 25 siècles. Et nous, on connaît ça. On a de la chance. Parce qu'aujourd'hui, nous pourrions être désolés avec toutes les lois françaises qu'on voit apparaître, toutes les iniquités qu'on voit dans notre monde, toutes les horreurs politiques que l'on voit un peu partout. On pourrait baisser les bras et dire, oui, on est vraiment dans un sale monde, quoi. Hein. C'était mieux du temps de nos grands-parents. Hein. Il y en a qui disent, ouais, il nous manque une bonne guerre. Hein. Ça irait mieux comme ça. Oh, oui. Bon, bref. Des choses insensées qui passent par la tête. Mais ce que l'on sait, c'est que nous vivons aujourd'hui une époque merveilleuse, extraordinaire, où nous voyons apparaître des prophéties de la Bible qui se réalisent. Je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né, nation. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Et il le gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Amen. Vous voyez que Dieu nous a donné la Bible, qui est un livre politique, littéral, symbolique, prophétique, scientifique, philosophique, archéologique, mystique, kabbalistique, spirituel, poétique, psychologique, tout ce qu'on veut. Ce livre englobe tous les aspects de l'être humain, et non pas simplement que la science ou que le côté spirituel, comme si la Bible était un livre que l'on ne voit que d'un côté spirituel. C'est pas possible. La Bible se voit dans tous les aspects. On ne va pas dire que c'est un livre scientifique qui va nous dire l'âge de Adam lorsqu'il est né. On ne va pas dire qu'on connaît l'âge de la Terre, 4,6 milliards d'années, paraît-il. Je ne suis pas sûr, et vous non plus. Voilà. Mais la Bible nous dit des choses qui nous permettent de grandir avec Dieu et de savoir quoi faire le jour où nous trouvons devant notre mer rouge. Seigneur notre Père, notre Dieu, je finis par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu qui, dans notre petite demi-droite de vie, nous a fait comprendre déjà des choses, qu'au travers des épreuves qui ne viennent pas de toi, tu arrives quand même à utiliser ces épreuves pour nous faire grandir avec toi, pour être un peu moins fou, un peu moins désobéissant. Je veux te le dire pour moi, Seigneur, que tu as dans ma vie peu de place par rapport à ce que tu mérites. Et je voudrais que nous puissions, nous, chacun, le confesser et comprendre que tu es le Dieu merveilleux qui a des choses en vue et qui peut même aller au-delà de notre mer rouge finale, qui est la mort, qui peut nous certifier qu'il sera avec nous et que nous vivrons dans un autre monde quelque chose de merveilleux. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que Jésus est notre Pâque, la victime sans tache dont le sang a couvert nos linteaux. Au joug de l'Égypte, ton bras nous a arrachés et ta droite nous a ouvert les eaux. Amen.
Bonne soirée.